C'est la fête des mamans aujourd'hui. Moi, le dimanche matin, normalement, j'y pense. Je vais dans les médias, j'essaie de voir d'un coup qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Je ne veux pas me présenter à l'église puis avoir manqué un événement, une catastrophe dans le monde. Et ce qui me frappait, depuis quelques années, ça me frappe, à peu près rien sur la fête des mères. C'est presque un silence complet dans les médias sur la fête des mamans. Mais dans l'église, sachez quoi, les mamans sont célébrées, sont précieuses. Amen! Quand on pense à la femme dans la Bible, on pense à la vie. Quand vous lisez les Écritures, cherchez dans les prochains mois, les prochaines semaines, quand vous lisez les Écritures, gardez ça en tête. Faites toujours l'association vie, celle qui donne la vie, celle qui porte la vie, celle qui donne la vie au Messie. C'est vraiment un thème constant. Et si toutes les femmes n'ont pas le privilège extraordinaire d'être maman, mais tous les êtres humains ont eu cette grâce d'avoir une maman. Amen. Vous êtes tellement précieuses, les mamans, tellement précieuses. Beaucoup de joie pour nous de vous voir, de vous voir nous donner des enfants à l'espoir, de voir vos enfants courir le dimanche matin, puis on les dit « attention, attention, attention ». C'est de la joie, c'est de la vie, c'est une grâce. Donc, bonne fête des mères, que Dieu vous bénisse abondamment. Chère maman, vous êtes tellement, tellement précieuses. Ce matin, on poursuit notre série dans 1 Corinthiens, on l'a intitulée « Différentes ». Pourquoi est-ce qu'on a intitulé cette série « Différentes » Bien, c'est parce que l'Église de Corinthe se trouvait très, très, très mature dans la foi, bénie de toutes sortes de dons. Ce matin, on va parler de dons spirituels. Donc, ils avaient plein de dons, tout ça. Ils étaient très fiers. Et en fait, ce que l'apôtre Paul leur dit, c'est, écoutez, lorsqu'on y regarde de plus près, vous et ceux qui ne sont pas chrétiens, il n'y a pas tant de différence que ça. En fait, parfois, à certains égards, vous êtes pires que ceux qui ne connaissent pas Jésus carrément. Donc, ça va assez loin. Alors que l'Église est censée être autre chose, n'est-ce pas? L'Église est censée, partout où Jésus a implanté des églises locales dans le monde, pensez à l'Église locale, pensez à une ambassade du ciel. C'est ça que c'est censé être. C'est le royaume de Dieu sur terre. Imparfait. On attend le retour de Jésus pour être parfait. Toujours imparfait. Mais quand même, il est censé, lorsque tu entres en relation avec une église locale, tu es censé découvrir un parfum de Dieu, un parfum de grâce, un amour, un accueil, une chaleur qui doit être là. Et l'église de Corinthe ne portait pas ce parfum-là tant que ça. Tant que ça. Et si on a décidé d'aller vers 1 Corinthiens pour faire une série, c'est simplement pour demander au Seigneur. Seigneur, est-ce qu'il y a des domaines dans la vie de notre Église, de notre Assemblée, où toi, lorsque tu nous regardes, tu dis, il y a place à amélioration, les amis. J'aurais besoin d'un peu plus de spiritualité ici. J'aurais besoin d'un peu plus d'hospitalité. J'aurais besoin que vous preniez à cœur mon nom davantage. Que vous preniez à cœur de vous aimer les uns les autres davantage. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on va à travers 1 Corinthiens, afin d'écouter la voix de Dieu qui vient nous examiner comme Église, personnellement, mais comme Assemblée, puis dire, Seigneur, parle-nous. Montre-nous là où peut-être nous avons à changer pour te ressembler davantage, pour être une véritable ambassade de Dieu sur terre. Et que ceux qui entrent en relation avec l'espoir disent, ah, OK, ça sent Dieu ici. Ça sent l'Évangile. Je goûte quelque chose de bon comme Dieu est bon. Amen. Et donc, faisons ça dans cet esprit de prière. Vous savez, on a une vision à l'espoir. Et pourquoi est-ce qu'on se donne une vision? Bien, c'est comme quelqu'un qui n'est peut-être pas très en forme, tu sais, puis qui se donne un objectif. Il se regarde dans le miroir un matin, ça m'arrive fréquemment depuis quelques années, puis il dit, il y a quelque chose à faire avec ça, j'espère. Tu vois? C'est ça une vision. Une vision, c'est pas là où on est, c'est pas qui on est entièrement, c'est un peu ce qu'on veut devenir. Et donc, pour nous, nous rêvons d'être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Donc, c'est ça notre rêve, être constamment renouvelé dans notre émerveillement, dans notre adoration par l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que ce que Christ a fait à la croix pour nous, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui exprime le mieux Dieu, son amour, sa grâce, sa bonté. Et donc, on veut être constamment émerveillé. C'est pas qu'on l'est toujours. Vous connaissez l'Église, vous dites, « Ah, oh, écoute, il pourrait y avoir plus de passion si vraiment on était émerveillé. » Oui, c'est un rêve, c'est une vision, on met ça devant Dieu. C'est le début de l'année quand tu te regardes dans le miroir et tu dis, « Seigneur, on va essayer de faire quelque chose avec ça cette année, tu vois? » C'est ça la vision. Et on a trois valeurs sur lesquelles on veut travailler. La spiritualité, l'hospitalité et la transmission. Apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu. C'est facile dans une église qui a 65 ans, qui enseigne la Bible, de tomber dans toutes sortes de rituels. Ça peut devenir très, très, très habituel, ce qu'on fait. C'est une routine. Mais l'Évangile n'a rien de routinier. L'Évangile, c'est un émerveillement renouvelé chaque matin par la grâce de Dieu. Et donc, on veut marcher non par la chair, non comme on marchait avant d'être chrétien, mais par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on va vers un Corinthien. On veut se remettre en question. Deuxièmement, c'est l'hospitalité. Parce que oui, l'Église grandit et on a besoin de grandir dans notre hospitalité. C'est pas à dire que l'Église n'est pas hospitalière. Déjà, je veux dire, toute la diversité qu'on a ici dans l'Église, la joie qu'on a de se réunir, parle de l'hospitalité de cette Église. Mais il y a place à amélioration, sans l'ombre d'un doute. Parce qu'il y a des gens qui se joignent à l'Assemblée et qui disent après quelques mois, « Écoute, j'arrive pas à connecter. » Le premier dimanche, je suis venu, j'ai dit, « Wow, c'est tellement chaleureux. J'ai eu du plaisir à me trouver dans cette Église-là. » Puis finalement, je réalise après quelques mois que je vis un peu de solitude. Oh, OK, on peut grandir dans notre hospitalité. On peut aller plus loin ensemble. Même dans notre intégration, on parlait de ça à la retraite des anciens. Cette idée vraiment de s'intégrer les uns aux autres puis d'apporter notre contribution, notre saveur, notre couleur, nos goûts à l'Église de l'Espoir. Et notre troisième valeur, c'est la transmission. C'est la transmission parce que ça, c'est la grande mission que Jésus-Christ nous a donnée jusqu'à son retour. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, à l'Espoir, Notre vision, c'est de toujours avoir la main ouverte. Tu arrives ici à l'Espoir, notre objectif, c'est que tu découvres Jésus-Christ, si ce n'est pas déjà le cas. C'est que tu grandisses dans ta foi. C'est que tu t'épanouisses au maximum de tes dons pour le bien de l'Église. C'est ce qu'on va parler ce matin. Et après, la main est encore ouverte. Le jour où Dieu t'appelle à aller bénir une autre assemblée, à aller implanter, à aller servir, à partir en mission, la main est ouverte. Tu vas toujours partir avec notre bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on veut transmettre, c'est ça qu'on veut faire. On veut transmettre l'Évangile dans la ville. On veut transmettre l'Évangile à nos enfants. Amen! On veut transmettre l'Évangile à la prochaine génération. On veut faire des disciples. On veut transmettre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, c'est une valeur qui est là historiquement à l'Espoir. On forme ici, on envoie. Mais en même temps, on réalise qu'il faut se rappeler cette valeur-là pour continuer à s'y investir à fond. Et ce matin, on va aller voir notre vision et ces trois valeurs-là dans le contexte d'un Corinthiens 12. Vous allez voir, on parle du service de dons spirituels. C'est pas mal intéressant. On va prier, on va écouter la lecture des Écritures, et on va plonger dans notre passage. Seigneur Jésus, on est réunis ce matin pour entendre ta voix, Seigneur. On croit que lorsqu'on étudie les Écritures, lorsqu'on ouvre la Bible, lorsqu'on prend le temps de venir en prière pour explorer ta parole, ton esprit prend cette parole et la rend vivante en nous, Seigneur. Et Seigneur, ta parole nous enseigne que chaque disciple de Jésus, chaque personne qui a cru en Jésus-Christ a reçu ton esprit, est animé de ton esprit. On te demande, Seigneur, de nous parler par ton esprit ce matin. Seigneur, que personne qui te connaît ici ce matin quitte sans avoir entendu dans son cœur, dans son âme, ta voix à travers l'application de ta parole. Que ce soit réel pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, s'il y a quelques personnes ici qui ne te connaissent pas encore, mets-leur l'eau à la bouche. Parle-leur du projet de l'Église qui est tellement beau, Seigneur. Mets-leur l'eau à la bouche et qu'ils découvrent l'Évangile de Jésus-Christ, afin qu'ils te louent, qu'ils te célèbrent avec nous, Seigneur, et qu'ils soient membres de ce corps qu'est l'Église de l'Espoir. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Bonjour, bonne fête des mamans. Dans notre série différente, dans 1 Corinthiens, on est rendu au chapitre 12, les versets 1 à 19 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, 1 Corinthiens 12, 1 à 19. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps, s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps?
Merci, Esther. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous êtes conduit. C'est un peu étrange comme ce bout-là. Où il s'en va avec ça, Paul? C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce que Paul est en train de souligner ici, j'avoue que c'est un peu étrange, après ça, il s'en va dans les dons. Il est en train de dire, quand vous n'étiez pas chrétien, vous étiez des adorateurs, vous aviez tous des dieux que vous adoriez. Même aujourd'hui, j'écoutais un apologète que j'aime énormément, un défenseur de la foi, qui avait eu un débat avec un athée très, très, très réputé. Puis le point que l'athée voulait faire, c'est qu'il lui disait, écoute, il dit, ce que je déplore, dans le fond, c'est que généralement, si tu nais avec la foi, c'est ça qui fait que tu vas rester là-dedans, c'est que tu n'as jamais envisagé autre chose, tu sais. Fait qu'il lui dit, toi, tes parents devaient être chrétiens. Oui, oui, mes parents étaient chrétiens. Fait que ce frère-là dit, je me suis dit, je pense qu'on va s'amuser. J'ai demandé, et toi, est-ce que tes parents étaient athées? Puis il a répondu, oui, en effet. Ah, il dit, tu vois, t'es né aussi dans un autre système de croyance. Et lui de répondre, non, mais c'est pas vraiment une croyance. Ah, il dit, ah, tu y crois pas finalement. Mais effectivement qu'il y croit, c'est son système de croyance, voyez-vous. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que vous aviez d'autres croyances, vous alliez vers d'autres dieux qui étaient des idoles qui, en fait, étaient creuses, étaient vides. Il n'y a pas de divinité réelle derrière ça. Et donc, il n'y a pas d'unité à avoir, parce que ces idoles-là ne parlent pas. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu professes de ta bouche, quand tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est sauveur des hommes, bien, à ce moment-là, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et donc, lorsque tu rencontres quelqu'un qui a la même déclaration de foi, sois attentif, sois à l'écoute, parce qu'on est habité du même Esprit. Et donc, dans l'Église, non seulement l'Esprit parle à travers la parole, l'Esprit parle à travers la prédication de la parole de Dieu, non seulement l'Esprit nous parle lorsqu'on lit les Écritures chez nous, puis on médite sur les Écritures, mais l'Esprit nous parle aussi à travers le corps. Tout le corps est appelé à servir ensemble, parce qu'un seul et même esprit nous habite tous, et il n'est pas silencieux. Non, il parle à travers les dons qu'il nous a donnés, il parle à son Église. On vit à une époque vraiment fascinante. J'étais en train de méditer sur le passage, puis je repensais au fait qu'aujourd'hui, à notre époque, on va chercher une grande partie de notre information par nous-mêmes. Hein? Beaucoup d'informations qui sont disponibles. Tu as une réparation à faire sur ta voiture, tu veux réparer ton vélo, qu'est-ce que tu fais? Tu en vas sur TikTok, tu en vas sur YouTube, tu cherches, tu regardes des gens qui l'ont déjà fait, puis tu dis « Ah ouais, OK, je suis capable de faire ça. » Ou tu réalises « Non, OK, tu dis, c'est trop difficile pour moi. » Là, tu cherches « OK, qu'est-ce que tu peux me recommander? » Donc, on devient très, très individuel dans notre recherche d'informations. C'est une ressource extraordinaire. Je veux dire, c'est fou. La démocratisation de l'information est incroyable. Mais avec ça, il y a un autre phénomène qui vient. C'est le phénomène du « c'est ma chaîne ». Ma chaîne, elle doit grandir. Ma chaîne, elle doit être connue. Tu sais, ce que je veux, c'est des clics. Je veux des abonnés. Hey, je tape le 100 000, c'est incroyable. Il manque juste encore 20 000 pour arriver au million. C'est extraordinaire. Et là, ça devient une espèce d'individualisation des personnes elles-mêmes. Elles veulent laisser leur marque. Je pensais aussi à toutes les talent shows, tu sais. Britain's Got Talent ou The Voice, La Voix. C'est comme... Tu veux avoir ton talent dans cette grande océan-là où il y a tellement, tellement d'informations, de divertissements, de chaînes, de tout ce que tu veux, et tu veux laisser ta marque unique. C'est un talent show. L'Église, c'est tout sauf un talent show. Et c'est là que l'Église se distingue complètement. Parce que tous les talents, les dons que tu peux avoir, tout ce que tu as est placé au service du corps, au service de l'ensemble. Ce n'est pas un talent show. Il y a des gens qui ont des dons, qui ont des ministères, qui vont faire qu'ils vont être plus publics. Bien, j'en suis, évidemment. Mais la pire affaire qui peut arriver pour un prédicateur de la parole, c'est de penser que cet endroit-là, ce lieu-là, sert à faire la promotion de soi. Et c'est le début de la fin, c'est la catastrophe totale. Non, 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 non. Si celui qui prêche la parole ne réalise pas qu'il est le serviteur de tous, il est damné, je vous dis, son ministère est fini. C'est une question de temps, il va tomber dans plein de péchés. Et donc, l'Église, ce n'est pas un talent show. L'Église se démarque de la culture, elle est différente de la culture parce que, justement, on veut t'aider à servir, on veut t'aider à voir que tu as un rôle à jouer dans l'Église, mais ça ne sera pas pour laisser ta marque. Non, on est des passeurs, les chrétiens. Je le dis souvent ici à l'Église, je suis béni personnellement de ne pas avoir implanté cette Église parce que dans mon esprit, c'est tellement pas mon Église. C'est l'Église de Jésus, mais c'est l'Église d'Élisée Beau. C'est quelqu'un d'autre qui l'a implantée. Je suis un passeur. Je suis juste un passeur. Et jusqu'au retour de Christ, on est des passeurs. C'est juste ça qui compte pour nous, c'est apporter une contribution selon les dons que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas un talent show. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. On va voir ensemble que l'Évangile nous unit par l'Esprit en un seul corps, où chacun reçoit un don pour servir et édifier. Chacun d'entre nous. Si ta bouche déclare que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu t'a donné un don pour le bien du corps, pour son édification. Toute l'activité chrétienne, quelle qu'elle soit, tous les dons spirituels est le fruit d'un seul et même esprit. Ce n'est pas un esprit individualiste. C'est l'Esprit de Dieu. C'est un esprit qui nous pousse à mettre en commun. Un seul esprit nous a rendus vivants pour Dieu et membres d'un seul corps. Voyez-vous, Dieu nous appelle à marcher par l'Esprit dans une église émerveillée par l'Évangile. Et ça, ça veut dire qu'il faut être conscient que cet esprit-là nous habite tous. Si tu es chrétien, tu professes Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est en toi. Et il veut te conduire à édifier, à servir le corps. Au verset 4 à 6, on lit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voyez-vous, le Saint-Esprit est la source unique de la vie et des dons spirituels. Bien comprendre ce que c'est le christianisme demande de bien comprendre qui est l'Esprit-Saint. On annonce l'Évangile à des gens. Moi, j'annonce l'Évangile souvent à des gens que, si je regarde à leur vie, là, je trouve que ce sont des meilleures personnes que moi. J'ai un ami qui est musulman. Là. Écoutez, si c'était à la performance qu'on rentrait au ciel, là, moi, je ne rentre pas. C'est un homme bien. C'est un homme intègre. C'est un homme doux. C'est un homme chaleureux. C'est un homme serviable. Mais j'ai la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est Dieu qui me l'a donné. Ça ne va pas au mérite, les amis. Ça ne va pas au mérite. Dieu m'a accordé une grâce de croire en Jésus-Christ. Et cette foi-là qui est née en moi, qui m'a habité, qui a fait que dans les dernières années avant ma conversion, je voyais bien que Dieu m'attirait à lui. C'est l'Esprit de Dieu qui donne ça. Oui, j'ai un rôle à jouer. Oui, c'est complexe. Tout ça. Je comprends, j'avais une décision. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que j'étais meilleur que j'ai choisi Christ. C'est parce que l'Esprit de Dieu m'a attiré. Un des grands mystères dans les Écritures, c'est... Vous savez, la Bible parle de la régénération. Vous savez, c'est quoi la régénération? C'est ce cœur nouveau. C'est lorsque tu passes de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est le moment où, peut-être oui, Dieu, je ne sais pas, puis waouh, Jésus. C'est assez mêlant lorsque tu es né dans l'Église. Pour plusieurs, ils disent, je n'ai pas la date. C'est correct. Si tu professes Jésus-Christ de ta bouche, si tu dis qu'il est Sauveur et Seigneur de ta vie, l'Esprit de Dieu est en toi. Mais ce phénomène-là de la régénération, où j'ai un cœur nouveau qui m'est donné, c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça en moi. Fait que le grand mystère, souvent, lorsqu'on étudie le sujet, on dit, oui, mais attends un peu, c'est parce qu'il faut croire pour, avoir un cœur nouveau, mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour croire. Comment ça fonctionne exactement, tout ça? Toute activité spirituelle à la gloire de Dieu, toute activité chrétienne, dans ton cœur, tes prières, tes dispositions, ton désir de servir, ton désir de pardonner, ton désir de te repentir, de demander pardon, tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous la vie chrétienne, littéralement. Et oui, on pourrait passer à travers des routines un peu, puis tu sais, mettre ton costume de chrétien, puis tu te présentes à l'Église, puis tu as de l'air d'un chrétien. Les épreuves et le temps révéleront si tu es chrétien. Parce que si tu es chrétien, tu vas souffrir, comme le reste des hommes et plus encore. Et à travers l'épreuve, tu seras éprouvé. Et tu seras révélé. C'est bien, tant mieux. La pire chose qui pourrait t'arriver, c'est de te faire croire à toi-même que tu es chrétien, puis de te retrouver devant Dieu en disant, « Hey, j'ai mon passeport, Jésus. Non, c'était juste un soute que tu avais loué pour quelques années. Tu n'étais pas chrétien, en fait. C'est la pire chose qui pourrait t'arriver, tu vois. » Toute vie chrétienne en nous, toute disposition, tout désir, toute passion, toute pulsion à faire comme Jésus, à suivre Jésus, à imiter Jésus, nous vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous cette vie-là. Par nous-mêmes, on serait incapable de le vivre. Au verset 11, « Un seul et même Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » C'est par un seul esprit que nous avons été baptisés pour former un seul corps. Voyez-vous, notre spiritualité ne repose pas sur la performance, mais sur une grâce vivante, l'Esprit qui nous unit à Christ. Et vous allez dire, ouais, mais tu ne nous parles pas de dons, Yannick. Attendez, on y vient. C'est parce que nos dons, nos talents aussi, on peut faire beaucoup de dommages avec ça si on pense qu'on est engagé dans un talent show. Il y a des églises qui sont construites autour d'un talent show. Voilà, écoute, le prédicateur, là, l'équipe de loup. Ah, écoute, c'est un talent show. Mais ça s'effondre, ces choses-là. Ça ne tient pas la route. Ce n'est pas une œuvre de Dieu nécessairement. Et le temps révèle, malheureusement, souvent à travers des scandales horribles, terribles, qui nous affectent, qui nous blessent. Notre spiritualité ne repose pas sur la performance, mais sur une grâce vivante, l'Esprit qui nous unit à Christ. Quand tu deviens chrétien, l'Esprit de Dieu prend tes talents, les talents que tu as, d'autres que tu n'as pas encore, qu'il va te donner, et vient orienter ta vie pour la gloire de Dieu. Tu quittes le talent show qui vise à ce que tu laisses ta marque dans le monde, et tu entres dans une toute nouvelle dimension, une nouvelle perspective. Ce que Dieu t'a donné et te donne vient être placé au service de l'édification, de la construction de l'Église, du corps de Christ. Certains d'entre vous, lorsque vous devenez chrétien, vous découvrez un don que vous n'aviez pas du tout avant. D'autres, bien, le talent, il était déjà là. Tu dis, écoute, j'étais quand même déjà pas mauvais dans ce temps-là. Oui, mais pour qui tu le faisais? Dans quel esprit tu le faisais? Donc, moi, je dois confesser, j'ai toujours été une grande gueule. J'ai toujours eu de la facilité à débattre. Mais quel changement quand j'ai connu Jésus. J'ai appris à me taire. J'ai appris à me taire pour mieux parler. Ça, je ne l'avais pas appris avant. J'ai appris l'humilité un peu. Il en reste encore un peu à apprendre. Ainsi, certains découvriront un don que vous n'aviez pas auparavant. Tu te convertis, puis pop, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Et d'autres, ça va être une réorientation vraiment profonde de talents qui étaient là, qui étaient un peu gâchés, alors que là, ils sont vraiment mis au service du corps de Christ. Certains d'entre vous, vous aviez des talents immenses. Avant d'être chrétien, vous allez les mettre de côté. J'ai un ami pasteur qui s'appelle Dominique Anger, qui jouait de la guitare classique, mes amis. Je sais parce qu'il était chambreur à la maison chez nous. Et boy! Touche plus à sa guitare. Prêche la parole de Dieu. Il l'a mis de côté. Ce n'est pas son appel. Ce n'est pas là qu'il est en train de servir. Marcher par l'Esprit, c'est reconnaître que chaque don est une œuvre de Dieu. Ça nous demande, dans notre communion, dans nos relations les uns avec les autres, de voir à travers la différence des dons, la différence des personnalités, le fait que l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre à travers toi. Et moi, je vais avoir une attitude d'ouverture envers toi. Tu es différent, ça va s'exprimer différemment, mais je vais avoir cette ouverture-là parce que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et on a besoin de cette diversité-là à l'intérieur de l'Église locale, qu'elle s'exprime, qu'elle soit présente. Voyez-vous, une de nos trois valeurs, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est avant tout marcher par l'Esprit. Avant, ce qui importait, c'est que je trouve ma place au risque de prendre la place de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je veux simplement contribuer. Et des fois, je suis en avant, des fois, je suis en arrière. Des fois, on me dit, merci, tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, tu vas juste chanter des chants de louange. Aujourd'hui, tu vas prier. Ah non, on a besoin de toi, la porte vient nous aider. Est-ce que tu pourrais recevoir quelqu'un à la maison? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je suis en train de servir le corps, c'est tout. Ce n'est pas dans le même esprit. Je veux marcher par l'Esprit Saint. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut pour l'édification du corps. C'est un seul et même esprit qui opère toutes choses comme il le veut. La vie par l'esprit, c'est recevoir, discerner, exercer les dons avec émerveillement et humilité. Et c'est un défi, hein, parce que certains viennent à l'Église, certains viennent à la foi, puis ils ont toujours été méprisés dans le monde. Des fois, c'est un peu drôle, l'Église. C'est comme une espèce de freak show où tu as, excusez-moi là, mais où tu vois des gens qui ont toujours été méprisés dans le monde, ils arrivent dans l'Église, puis là, ils disent, enfin, il y a des gens qui veulent m'entendre. Des fois, tu as l'air un peu d'un adolescent qui a grandi de 6 pouces dans les 3 derniers mois puis qui manque un peu de coordination. Parce que tu veux peut-être le micro quand c'est pas le temps. Puis merci, tu peux t'asseoir. Ah non, mais on m'a dit que je pouvais servir. Oui, ça va venir. On aimerait que tu aies un petit peu plus de maturité là, avant que tu ailles prêcher, s'il te plaît. La vie par l'esprit, c'est recevoir, discerner et exercer les dons avec émerveillement et humilité. Et c'est à ça qu'on est appelé. Parce que lorsque tu rencontres une église où chacun des enfants de Dieu sont engagés à servir selon leurs dons, les gens viennent nous visiter et ils disent, il y a quelque chose ici. Il y a un parfum de Dieu dans ce lieu-là. Il y a un amour que je n'ai pas connu ailleurs. J'ai des amis qui ont fréquenté l'église pendant des années avant de se convertir. Et la raison pour laquelle ils étaient ici, c'est qu'ils n'avaient jamais réussi à associer dans leur pays religion et amour comme ils l'expérimentaient ici. Pas chrétiens encore. Mais ils ont découvert l'amour comme ils ne l'avaient jamais connu. Ils se sont convertis plusieurs années plus tard. Mais ils venaient ici parce qu'ils ressentaient cet amour-là qui était présent. Et encore une fois, l'Église est tellement imparfaite. Ainsi, il n'existe pas de chrétien qui n'a pas reçu de don de la part de Dieu pour servir et édifier l'Église. C'est mon deuxième point ce matin. Chacun reçoit un don pour accueillir et servir les autres dans l'amour. Chacun reçoit un don. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes troublés puis vous dites, « Ah, mais je ne sais pas c'est quoi mon don. » Stick with me, restez avec moi, on n'a pas terminé. Chacun reçoit un don pour accueillir et servir les autres dans l'amour. Dieu nous appelle à faire de l'Église un lieu d'hospitalité vivante. Et ça s'exprime par le service. Vous l'entendez régulièrement ici à l'Espoir. L'amour, dans le Nouveau Testament spécialement, prend la forme du service. L'amour dans le Nouveau Testament prend la forme du service. Dieu nous appelle à faire de l'Église un lieu d'hospitalité vivante. Parce que c'est ça, être hospitalier, c'est servir, hein? On reçoit des gens tantôt là, à dîner chez nous. Hey, mes amis, on a couru hier soir, ce matin, OK, est-ce que tu es prêt? C'est ça l'hospitalité, c'est servir. C'est littéralement ça. Et ça s'exprime par le service. Voyez-vous, l'Église est un corps harmonieux où personne n'est utile ni de trop. Et là, je sais, il y en a qui disent harmonieux, attends, là. C'est beau, l'Église, je vous dis. Très imparfait, mais c'est vraiment beau, l'Église de Christ. Paul dit au verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Alors, dans l'Église, on n'est pas tous en train de servir en même temps. Il y a des membres du corps qui souffrent. Je vous ai partagé, ça fait un an là, environ là, que j'ai commencé à faire du bloc, de l'escalade. J'ai découvert que j'avais un tendon ici, qui était vraiment utile. Il est tout petit, mais il est vraiment utile quand tu veux grimper après un mur. Puis là, ce tendon-là, il a toute mon attention. C'est le tendon dans mon corps qui reçoit toute mon attention. Si jamais vous me croisez, vous me voyez en train de faire ça, là, je suis en train de masser mon tendon pour qu'il guérisse. Il est à mi-chemin, là. Il est à mi-chemin, je peux grimper, ça fait plus mal. Mais il y a encore une boule dans le tendon. Il y a encore... Ce tendon-là a toute mon affection. C'est drôle, j'ai jamais aimé autant un tendon de mon corps. Je me flatte pas tellement les tendons, vous voyez. Je suis pas là comme « Oh, le beau tendon! » Mais celui-là a toute mon attention. On n'est pas tous en train de servir en même temps. Il y a des membres qui souffrent. Et s'il y en a un qui souffre, on souffre avec lui, c'est correct. Vous dites, attends, Yannick, tu me parles de service, mais je suis tellement pas là. Si tu vois comment. Je suis brisé en dedans actuellement. On souffre avec toi, frère, sœur. On est appelé à souffrir avec toi. On est appelé à remarquer ta souffrance. Pardonne-nous si on ne l'a pas vu encore. Lève la main, fais signe. On va aller prier avec toi, on va aller pleurer avec toi. Si un membre souffre, on souffre avec lui. Donc tous les membres ne sont pas en train de servir en même temps. Certains souffrent, c'est correct. C'est correct, c'est bien. Peut-être que tu t'es joint à l'Église ici et tu dis, écoute, je ne suis pas membre de l'Église parce que si tu savais d'où je viens, là, moi, je m'assois ici, j'espère que personne ne va me dire bonjour, j'espère qu'on va me laisser partir. Peut-être que dans 3 mois, j'aurai envie de vous saluer. Tu es bienvenu. C'est parfait comme ça, il n'y a pas de problème. Viens t'abreuver, viens recevoir la louange, juste une poignée de main, c'est correct comme ça. Peut-être que c'est là que tu es dans cette saison-là, c'est bien. Si un membre souffre, on souffre avec lui. Et si on n'a pas vu ta souffrance, pardonne-nous. Fais-nous un petit coucou, fais-nous signe. Des fois, on est pris, nous autres, on veut construire le royaume pour Dieu. Tu sais. Là, on court, hein, mais il y a un tendon qui souffre. Porte attention. Il y a besoin d'amour. Il y a besoin d'être guéri pour venir s'investir avec nous. L'hospitalité commence par une culture d'attention, de valorisation mutuelle, d'interdépendance vécue. Et c'est ça, mettre nos dons au service les uns des autres. Une culture d'attention, de valorisation mutuelle, d'interdépendance vécue. C'est en mettant nos dons et tous les dons de l'Église au service de l'Église que nous grandirons dans notre hospitalité. Ah, c'est sûr que si... C'est 2-3 personnes qui sont responsables de l'hospitalité à l'espoir, on est cuit, là. Je veux dire, je suis bon sur un barbecue, là, mais ça en fait de la boulette. Non, c'est toute l'Église. C'est en mettant nos dons et tous les dons de l'Église au service de l'Église que nous grandirons dans notre hospitalité, que nous percevrons ce parfum de Christ qui est des fragrances d'amour, de chaleur, de compassion, parce que tu as des dons que moi, je n'ai pas. Il y a des dons qui sont plus spectaculaires, et on va en parler un peu plus au chapitre 14. Il y a des dons qui sont publics, j'en suis, évidemment. Certains sont appelés à être sur l'estrade, à être connus de tous, et d'autres sont plus dans l'ombre et connus que de ceux qu'ils servent. Pensons à Acte 2, quand l'Église passe de 500 personnes à 3500 personnes. Et ça en prend de l'hospitalité, là? Il y en a de la boulette à faire tous les midis, là. Vous comprenez? Il y en a des coups de balai qui se passent puis des maisons qui s'ouvrent. Pour prendre soin de toute l'Église, parce que c'est ça le corps de Christ. Bouf! Un ado en pleine croissance, c'est stéroïde. 500 à 3500. On est mieux de tous s'y mettre, je pense. Tous ne sont pas pasteurs ou apôtres, mais tous servent dans les maisons, les groupes connexions. Il y avait des groupes connexions dans Acte 2, vous savez ça? Partout, c'était des experts des groupes Connexion. Ils ouvraient leur maison à prier ensemble, à préparer de la nourriture, à donner pour de la nourriture, à ouvrir leur maison, à visiter un frère, une soeur malade, à garder les enfants les uns des autres, à se consoler les uns des autres, alors qu'ils traversent des deuils. Aller voir un frère qui est dans le deuil, puis simplement aller le consoler. Certains sont appelés au ministère de la prière ou de l'accompagnement. Vous savez, une des réalités au Québec, c'est que lorsque quelqu'un vient à Christ, généralement, on dit au Québec, il est magané. On vient de familles dysfonctionnelles. On est les experts de la dysfonctionnalité, peut-être en Amérique du Nord. C'est ça, la réalité. Et plus ça avance, pire ça devient. Confus, brisé, magané. Et dans l'Église, tu trouves le père que tu n'as jamais eu, tu trouves la mère que tu n'as jamais eu, tu trouves des mères. Il y en a plein. Moi, j'ai plein de mamans ici, là. Ça fait trop longtemps que je suis ici, peut-être, là. J'ai plein de mamans. C'est correct, c'est génial. Un frère, une sœur, un grand frère, une grande sœur qui marche avec toi. Et des fois, c'est juste ça, ton ministère, c'est de marcher à côté de quelqu'un et dire, « Écoute, as-tu de la difficulté à lire la Bible régulièrement, à prier? J'aimerais ça, juste, on va faire ça ensemble. Ouais, j'ai vu, je suis dans le plan de lecture, j'ai vu que tu étais là. On va lire la Bible ensemble, on va partager ensemble. Écoute, c'est peut-être le plus beau cadeau spirituel que cette personne-là va recevoir de toute sa vie. » Ton don peut très bien être de marcher à côté d'un frère, d'une sœur, tout simplement. Il y a toutes sortes de dons qui sont ici, mais en fait, il y en a plein d'autres dans les lettres de Paul. Et on va parler davantage des dons spectaculaires, je vais dire comme ça, au chapitre 14. Parce que l'accent de ce chapitre-là est plutôt sur l'utilité de tous les dons pour le corps de Christ. Cette semaine, je parlais avec, elle n'aimerait vraiment pas ça que je la nomme, fait que je vais la nommer, avec André, qui vient nous assister au bureau. André, elle a un don unique, elle a le don d'être scribe. C'est une scribe dans sa nature. C'est quelqu'un qui remarque les détails, tu sais. Est-ce que vous appréciez les PowerPoint le dimanche matin? Oui, mais peut-être qu'on peut la remercier. Ah, je pense que je viens juste de la voir, mais je ne la pointerai pas, là. Ce serait too much. Moi, je n'ai pas ce don-là. Moi, vous me donnez un formulaire. Tous les formulaires ont des erreurs. Je les reçois 3 mois plus tard. Il y a une erreur, vous n'avez pas mis votre numéro de téléphone. Shot, j'avais prié 3 fois, tu sais. J'avais fait le tour de mon formulaire, tu sais, en faisant des louanges. C'est juste pour pas faire... J'ai pas le don de scribe. Moi, je scrape tout ça. Mais c'est tellement précieux parce que André porte attention à des détails, archive notre histoire, nos minutes, puis ce qui s'est passé, puis ça célèbre la gloire de Dieu. On est en train de faire la liste des gens qui se sont fait baptiser depuis 65 ans, l'espoir. Est-ce que c'est pas merveilleux? Hey, c'est glorieux, c'est beau! Le don de scribe, bon, c'est un don particulier. Il y a toutes sortes de dons qui sont placés au service de Dieu. Dieu honore spécialement ceux qui paraissent les plus faibles dans l'Église. Il dit au verset 24-25, Paul dit, « Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient et afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Dieu a donné plus d'honneur à certains. Une des choses qui est fantastique avec l'Église, c'est que, tout à l'heure je le mentionnais, il y a des gens qui arrivent dans l'Église, aucune confiance en eux, ils ont toujours été méprisés. Et personnellement, vous allez avoir de la difficulté à vous projeter, là, à associer ça à moi. Mais moi, j'étais le gars qui se faisait attendre à la sortie de l'autobus. Les bullies, j'étais la cible préférée des bullies à l'école, jusqu'à temps que je devienne un petit bum. Moi, je suis quelqu'un d'hyper timide, là. Je sais que c'est très weird, mais vous me regarderez. Si je ne viens pas vers vous, là, c'est parce que je suis timide, c'est pas parce que je ne suis pas intéressé. D'accord? Donc, venez vers moi, ça me fait plaisir. Je suis un gars vraiment timide. Je suis arrivé dans l'église, puis là, tout d'un coup, on m'a dit, « Ah, Yannick, je pense que tu comprends la Bible. Tu veux-tu apporter quelque chose à la jeunesse? » L'Église est le terreau où j'ai complètement fleuri. Et pendant que j'étais en train de préparer ça, je pensais à une sœur qui est arrivée ici, méprisée toute sa vie. Une petite madame, pour ne pas la nommer Carmen, qui est arrivée à l'Église. Puis c'est ça qu'elle nous partageait. Elle dit, « Mais là, je découvre des gens qui m'aiment. » Puis, vous savez quoi? Carmen a des paroles de sagesse. Elle a toujours son explication à elle. C'est très spécial quand Carmen t'explique un principe de la vie, ça sort juste de Carmen. Il y a juste elle pour faire ça. Mais je ne sais pas combien de fois Dieu m'a repris à travers cette sœur-là. Et donc, il est arrivé dans l'Église, il a trouvé sa place dans l'Église. Parce que tous les dons sont utiles à l'intérieur de l'Église. Je pensais dernièrement à certaines personnes qui ont un handicap. Et qui ont l'impression toute leur vie que leur contribution est presque inutile. Il y a des gens comme ça dans l'Église. C'est oui, mais moi, comment je fais? Comment je fais pour servir? Et je partageais avec des frères dernièrement que certaines de ces personnes-là sont les plus édifiantes dans l'Église parce qu'elles gardent la foi. Toute la culture leur dit qu'elles ne valent rien. Je suis désolé, mais il n'y a pas de talent show ici, là. Mon talent show, c'est que je sais chauffer une chaise électrique. Mais le simple fait que vous gardez la foi, vous marchez dans la foi, c'est tellement édifiant. Et je réalisais dernièrement, je le partageais avec des frères, personnellement, j'ai même l'intime conviction que dans l'éternité, ces gens-là, écoute, c'est moi qui vais venir servir votre table. C'est profond en moi, c'est là, j'ai... Tu sais, je veux dire, Dieu m'a donné tellement de talent, fait que c'est... Toi, là, quand Jésus va distribuer les couronnes, là, moi, je vais shiner tes souliers, là, tu comprends, pour l'éternité, c'est ça que je vais faire. Et j'en suis rendu même au point de me dire, peut-être que tu as été donné à l'Église pour rappeler à ceux qui ont plus de capacités que Dieu n'est tellement pas impressionné par nos capacités. Ça ne nous impressionne pas. Et ta présence dans l'Église, c'est ce que moi j'ai besoin pour garder les deux pieds groundés. Dans l'humilité. Tu es bourré de talent? Va vers ceux qui ne peuvent pas servir ou très, très peu. Peut-être qu'ils peuvent prier, témoigner un peu, encourager. Va être édifié en parlant avec ces gens-là. Va les visiter. Ils sont tellement précieux. Tous les membres sont appelés au service. Et c'est correct pendant un temps que certains membres soient en repos parce qu'ils ont besoin d'être restaurés. C'est correct, ça va. Mais vous savez ce qui se passe dans le cœur humain lorsque on accumule à l'excès certaines molécules qui deviennent, à un moment donné, inutiles. Tu sais, mon tendon, il est en repos, mais je ne veux pas accumuler d'autres substances sur mon corps parce qu'elles deviennent inutiles. Tout ce qui est ici là, est censé fonctionner. Là. C'est censé être à contribution. C'est merveilleux, hein? La graisse. Vous savez que la graisse, c'est extraordinaire. C'est des batteries. C'est ça la graisse, hein? C'est des batteries. C'est des boules d'énergie que tu transportes avec toi. Mais à l'excès, on s'en va ailleurs, par exemple. Quand il y a trop de batteries là, qui ne servent pas, là, ça devient toxique. Mais certaines églises souffrent d'obésité spirituelle. Il y a comme trop de dons inactifs, passifs. Puis là, ça devient des gérants d'estrade. Vous savez, c'est quoi un gérant d'estrade? Au Québec, on dit des gérants d'estrade. Tu sais, c'est les parents qui vont regarder les matchs de sport de leurs enfants et qui savent tellement mieux que le coach ce qu'ils devraient être en train de faire, puis ils crient après, là, tu sais. Ou c'est le gars qui est à côté de toi dans l'auto, c'est pas lui qui a le volant. Ton ministère aujourd'hui, c'est de rendre la route agréable, c'est pas de me dire quoi faire. Tais-toi, s'il te plaît, ton anxiété, garde-la pour toi. C'est pas ça ton appel, t'as pas le volant, c'est moi qui chauffe. Merci, gérant d'estrade. Mais dans l'Église, si t'es un enfant de Dieu comme moi, et si t'es pas dans une situation où t'as besoin qu'on prenne soin de toi comme mon tendon, t'es appelé à servir. T'es appelé à servir parce que tu pourrais devenir un excès d'énergie qui deviendrait de l'énergie négative et nuire à l'ensemble du corps. Et comment est-ce qu'on règle ça quand il y en a trop? Bien, on arrête un peu d'en entrer, puis on fait plus d'activités. T'as besoin de servir. Si tu as une opinion sur tout ce qui se passe dans l'Église et que tu ne sers pas, écoute bien, là. Jésus te parle ce matin, là. Sers! Ça ne me dérange pas où tu sers. Sers. C'est tout. Canalise cette belle énergie que tu as à faire du bien dans l'Église. Maintenant, si tu as besoin de te reposer, si tu es souffrant, s'il te plaît, ne prends pas ça comme une exhortation de ma part, là. On est là pour prendre soin de ceux qui souffrent. Amen? Amen. Dernier élément que je veux souligner ce matin, c'est en exerçant nos dons que nous participons à la mission de transmission de la foi. Voyez-vous, l'image, c'est celle d'un corps. Vous savez, un bébé, là, il ne comprend même pas encore à quoi ça sert son corps, mais ça sert au complet. Les orteils vont dans la bouche. Il n'a pas compris que ça servait à marcher, cette affaire-là. Tu sais. Il y a encore quelques connexions à faire au niveau du cerveau, mais ça sert au complet. Là. Je veux dire, un bébé, vous savez, vous avez déjà vu l'étude où ils ont pris une équipe de football, ils ont filmé un bébé pendant 2 heures, puis ils ont dit à l'équipe de football, vous faites exactement les mêmes mouvements que le bébé. Ils étaient incapables de suivre, là. Ils étaient incapables de suivre, parce qu'en vieillissant, il y a comme beaucoup de petits morceaux qu'on ne sert pas trop. Hein? Mais l'image que Jésus nous donne, que Paul nous donne, que Dieu nous donne, c'est celle d'un corps. Et dans un corps, un élément, un organe qui ne sert pas comme il faut va devenir problématique. Parce que tout le corps est appelé à grandir, est appelé à se renouveler, à se régénérer constamment. Et c'est comme ça que la mission, la transmission de la foi va s'opérer. Dieu nous appelle à faire des disciples en formant et en équipant les membres du corps. Chaque don est un outil pour l'édification et la croissance du corps. C'est ça qu'il nous dit au verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, si tu professes Jésus-Christ, tu as une contribution à faire pour édifier le corps de Christ. Et ce matin, je vais faire quelque chose. Je vais demander aux anciens, aux pasteurs qui sont dans l'Église de vous lever, les anciens en formation aussi. Je sais qu'on n'est pas tous ici, là, mais Luc, s'il te plaît. Les anciens, je vous demande de vous lever. Les anciens en formation, merci. Les diacres et diaconesses, je vous demande de vous lever. Diacres et diaconesses. Les responsables de ministère, je vous demande de vous lever. Tous ceux qui ont la responsabilité d'un ministère, obligez-moi pas à vous chercher. Vous voyez ces gens-là, là? Des fois, vous avez l'impression, restez debout s'il vous plaît, que dans l'Église, on n'a pas besoin de vous. Ces gens-là prient chaque semaine pour que Dieu vienne combler des besoins autour d'eux. Et donc, vous dites, écoute, Yannick, je comprends, là, tu veux que je serve, mais je sers où? Mais allez voir ces personnes-là tantôt. Demandez-leur quel est leur ministère. Parce que moi, je connais les besoins. Dans tous les ministères, il y a des besoins. Et on forme constamment à l'espoir. Et on forme avec la main ouverte pour que Dieu envoie. Merci, vous pouvez vous asseoir. Allez les voir. Allez leur exprimer votre désir de servir. Demandez-leur comment vous pouvez servir. Et lorsqu'on pense au corps humain, au corps de Christ aussi, mais comme je disais, on pense à un bébé qui grandit. Le bébé a l'intelligence d'utiliser toutes les parties de son corps. Il ne comprend pas trop à quoi ça sert, mais il s'en sert. À quel âge est-ce qu'on commence à servir dans l'Église? Si tu peux me dire que Jésus est Sauveur et Seigneur, moi je veux que tu serves. Vous savez que toutes les études démontrent qu'un des plus grands facteurs pour que les prochaines générations restent dans la foi, c'est qu'ils servent dans l'Église locale. Vous savez ça? Les études sont toutes claires, elles sont affirmatives. C'est un des plus grands facteurs dans l'adhésion de la foi si les jeunes servent très tôt. Et donc, si tu as 5 ans, bon, peut-être t'es pas ici, si tu as 7 ans, si tu as 10 ans, si tu as 12 ans, si tu as 13 ans, si tu as 15 ans, si tu as 17 ans, si tu professes Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, Dieu t'a donné un don. Tu dis, ouais, mais je ne suis pas baptisé encore. Ça viendra. Ça viendra. On attend un peu de voir que c'est bien ferme dans ton cœur. Ça ne t'empêche pas de servir, mon ami. Le Seigneur t'appelle à servir dans l'Église. Viens servir. On veut te voir partout. On veut te voir à l'accueil. On veut te voir à la technique. On veut te voir avec les enfants. On veut te voir dans les groupes connexion. On veut te voir prier avec d'autres jeunes. On veut te voir annoncer l'Évangile à d'autres personnes. Il y a des personnes âgées qui pleureraient si tu allais les visiter à la maison parce qu'ils n'ont pas la capacité de venir ici. Puis tu as 17 ans, puis tu dis, « Oui, mais qu'est-ce que je vais aller faire? » Écoute, ça va être la rencontre du siècle. Elle va te partager sa foi. Tu vas être édifié. C'est incroyable. Elle va être tellement encouragée par ton désir de servir Jésus à 17 ans, à 15 ans, whatever. On est appelé à servir dans l'Église. Quel que soit ton âge, mais je vais continuer quand même, là, à 60 ans, à 70 ans. Moi, j'ai connu un homme de Dieu. Je ne le nommerai pas. Il s'appelle Luc. Qui me disait, écoute, j'arrive à un certain âge, je pense que ça va être le temps que je m'arrête. Jésus m'a parlé, j'ai écrit sur une napkin. J'ai dit, tu vas servir jusqu'à quel âge, Luc? 80 ans. J'ai signé Jésus, je me suis approprié son nom, juste comme ça, puis j'ai donné. C'est vrai, là. C'est une vraie histoire. Écoutez, Luc n'est pas là, mes amis. J'ai besoin que Dieu nous envoie 4 personnes de plus. 80, je pense que Jésus t'a induit en erreur, ça va être plus loin que ça. Excuse-moi, Seigneur, j'ai blasphémé. Non, mais tu es appelé à servir tout le temps. Peut-être que c'est à travers la prière, à travers l'encouragement. Tu es un trésor d'expérience dans la foi. Et donner un coup de fil lorsque tu as 93 ans à quelqu'un qui s'absente de l'Église pour lui dire « Je veux que tu saches que je prie pour toi. » Eh, mes amis, tu ne peux pas imaginer la puissance de cette bénédiction-là. C'est absolument extraordinaire. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Frères et sœurs, l'Évangile nous unit par l'Esprit en un seul corps. Et mon exhortation pour toi, c'est super simple. Si tu professes de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, Dieu t'a doué. Et là, tu me dis, oui, mais je ne sais pas c'est quoi mon don. Puis à l'Église de l'Espoir, on dirait que tous les besoins sont comblés. Aïe, aïe, s'il te plaît. Non, mais tu dis, peut-être que je vais aller servir ailleurs. Amen, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir que tu partes pour aller servir ailleurs. Commence par servir ici. Va pas voir ailleurs. Je te dis, les besoins sont énormes. Commence à servir ici, sachant que notre passion, c'est de garder la main ouverte. Viens grandir avec nous. Fais tes gaffes ici, puis va bénir plus tard. Pas de problème. Pas de problème. Non, mais tu dis, j'aimerais ça servir dans tel ministère, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de servir dans ce ministère-là. Fait que je voudrais pas lui enlever sa place. Ce que tu sais pas, c'est que cette personne-là prie toutes les semaines pour de la relève. Là, tu vas faire quoi? Tu vas attendre que la personne quitte. Tu vas dire, bien, je l'aurais fait, mais il n'y a personne pour me montrer. Là, tu vas aller voir le pasteur. Tu vas dire, pasteur, montre-moi comment faire. S'il te plaît, va t'offrir, deviens son assistant. Vous remarquerez que dans nos cours bibliques qu'on donne ici, il y a généralement un assistant qui enseigne aussi. Parce que notre rêve, c'est de vous voir tous partir un jour. Si Dieu vous appelle, que Dieu vous bénisse. On va en former d'autres, puis on va bénir. Il n'y a pas de problème avec ça. Frères et sœurs, vous êtes précieux. Et peut-être que tu es en pause, parce que Jésus te dit, repose-toi. T'es le tendon qui a besoin d'attention. Mais si tu professes Jésus-Christ, que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu es une bénédiction pour l'Église qui demande à être découverte. Peut-être que ton don, c'est d'encourager le pasteur à rester humble, parce que tu dis, regarde, moi, je marche encore dans la foi et je n'ai pas la moitié des bénédictions que toi, tu as reçues. C'est bon. Peut-être que ton don, c'est de prier. Peut-être que ton don, c'est d'accueillir le dimanche matin. Va voir Joey. Joey, il va pleurer. 10 personnes vont le voir ce matin. Il voulait le faire pleurer. Là. Il va pleurer, je vous dis. Allez voir les gens de la technique. Là. Mais servez le Seigneur, frères et sœurs. Pourquoi? Pas pour soulager ceux qui servent. Pas pour que le fardeau soit moins lourd. C'est pas pour ça. C'est parce que c'est au moment où l'Église se met au service les uns des autres que le parfum de Christ apparaît et que l'Église est vraiment cette ambassade du ciel sur terre. Et vous avez tous une contribution à y apporter. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est vivante, ta parole est vraie, Seigneur. Ta parole m'a parlé cette semaine. Et je te prie, Seigneur, de parler puissamment à chacun à travers la louange. Viens ancrer, Seigneur, cette prédication dans nos cœurs, viens nous conduire dans le service, viens nous amener à s'engager envers ton corps, vraiment, sincèrement, sérieusement. Seigneur, je te prie d'encourager ceux qui sont dans l'abattement et qui disent « Ah, j'ai servi Yannick, mais je ne suis pas en état de servir. » Viens les encourager. Place à côté d'eux, Seigneur, des gens qui vont les relever, qui vont prendre soin d'eux, qui vont venir les encourager, qui vont venir pleurer avec eux, Seigneur. Et donne à chacun, Seigneur, de découvrir un endroit déjà pour servir et tranquillement découvrir son don, mais simplement se placer au service du corps de Christ. Merci, Seigneur, pour l'Église de l'Espoir. Merci pour chacun des membres de cette Église, Seigneur. Chacun sont précieux. Seigneur, on veut s'engager à porter ce parfum de Christ à travers notre service les uns auprès des autres. Et c'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.